Je crois que ça reflète aussi tout simplement l'état d'esprit du gouvernement turc à l'heure actuelle et depuis la tentative de coup d'État manquée de juillet 2016. On a vraiment une évolution vers une tension très forte entre la Turquie et ses alliés traditionnels. On a eu des tensions transatlantiques, on a des tensions avec l'Union européenne et aujourd'hui l'Allemagne se trouve en première ligne, à la fois parce que c'est le pays qui avait négocié de la façon la plus approfondie avec la Turquie, dans un dialogue politique très fort sur la question des réfugiés syriens. Et puis parce qu'évidemment, c'est un pays qui a sur son sol 3 millions de personnes qui sont turques ou d'origine turque et que aujourd'hui, c'est de la diaspora turque en Europe intéresse de plus en plus le président Tayyip Erdogan. Toutes les campagnes électorales, toutes les campagnes pour des votations qui ont eu lieu en Turquie ces dernières années ont donné lieu aussi à des campagnes politiques dans les pays où on trouve de la diaspora turque.
Et justement, dans la perspective du prochain référendum, de la prochaine échéance, le 16 avril, est-ce que Erdogan est en position de gagner ou est-ce qu'il a encore un certain chemin à faire, des électeurs à convaincre pour s'imposer ?
Erdogan est tout à fait en position de gagner, à mon sens, et je crois qu'il ne ferait pas ce référendum s'il n'avait pas le sentiment qu'il va le gagner. Ce qui n'empêchera pas de faire une campagne électorale qui va être très très active et je dirais même très agressive sur le terrain. Mais au-delà de la simple question du référendum, on a dans les diasporas des personnes originaires de Turquie, puisque c'est l'expression qu'on emploie dans les pays de l'Union européenne, on a le clivage entre Turcs et Kurdes avec la question des soutiens éventuels au PKK, qui est donc ce parti séparatiste qui est devenu l'ennemi numéro un du gouvernement turc. Et on a aussi, depuis la tentative de coup d'État de l'année dernière, la question du rapport entre les soutiens de Fethullah Gulen, de ce fameux imam exilé aux États-Unis qui a été désigné comme responsable de la tentative de coup d'État. Donc la question des rapports avec la communauté pro-Gulen dans ces différents pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, quand Tayyip Erdogan s'adresse à la diaspora turque dans le monde, il a aussi ça en ligne de mire. Il a fait récemment une tournée dans les pays africains dont le but essentiel, après le resserrement des liens politiques, était d'obtenir la fermeture des écoles de Fethullah Gulen. Et ce problème, il se pose pratiquement dans tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui.
Et est-ce que l'Union européenne s'est montrée ouverte à l'aider dans sa lutte, puisqu'il emploie souvent le terme de lutte contre la confrérie de Fethullah Gulen?
Les pays de l'Union européenne sont extrêmement réservés vis-à-vis de toutes ces demandes politiques du gouvernement turc, parce que le mouvement Gulen n'est pas considéré comme un mouvement terroriste en dehors de la Turquie. Il est déclaré terroriste, organisation de terreur en Turquie même, mais ce point de vue politique n'est pas relayé systématiquement par les alliés de la Turquie. Pour le PKK, c'est beaucoup plus compliqué parce que le PKK fait partie de la liste des organisations terroristes reconnues par l'Union européenne. Mais le problème est aujourd'hui la tendance à, je dirais, criminaliser un peu tout le camp politique kurde en Turquie, parce que aujourd'hui Tayyip Erdogan joue très fortement sur le sentiment nationaliste de ses électeurs et en faisant appel aux voix de l'extrême droite turque nationaliste, il faut qu'il tienne un discours beaucoup plus répressif à l'égard des Kurdes.
Et pour revenir maintenant aux tensions entre la Turquie et l'Allemagne, de quel levier dispose le président turc pour maintenir ses pressions sur l'Allemagne ?
C'est terrible de se mettre à raisonner en ces termes, en fait. C'est tout à fait sidérant d'imaginer que dans deux pays qui ont des liens aussi importants, pas seulement politiques, mais évidemment économiques et puis sociologiques, parce qu'on a cette communauté turco-allemande, mais on a une histoire qui est très forte entre la Turquie et l'Allemagne. C'est quand même tout à fait fou d'imaginer qu'on en arrive à un état de tension tel que chacun se demande jusqu'où est-ce que on pourra porter préjudice aux voisins. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, le président turc pense à activer certaines parties de la diaspora pour protester en Allemagne. Et c'est ce qui fait très peur aux Allemands. C'est l'importation sur leur sol des clivages qui travaillent aujourd'hui toutes les communautés turques. Ces clivages dont je parlais tout à l'heure entre Turcs et Kurdes, pro-régime et anti-régime, pro-Gulen et pro-Erdogan. Et on a déjà vu des incidents dans plusieurs pays de l'Union européenne qui sont liés à ces fortes tensions dans les communautés originaires de Turquie. Donc ça, je crois que ça fait très peur aux Allemands.
Et par rapport à l'accord sur les migrations, est-ce que vous pensez que là, dans un futur proche, il pourrait revenir sur ces dispositions ?
En fait, depuis l'été dernier, Tayyip Erdogan a déjà menacé à plusieurs reprises de suspendre l'accord. Il ne l'a jamais fait. Je pense que c'est une sorte de bluff, de vaste bluff politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de remettre en cause cet accord. Je pense que à la fois la Turquie a besoin de l'argent que l'Union européenne va lui verser en échange de cette politique finalement de rétention des réfugiés syriens sur son sol. Je pense qu'il est aussi assez hasardeux d'imaginer que du jour au lendemain, les réfugiés syriens repartiraient en Allemagne simplement parce que Tayyip Erdogan leur dirait de partir. Aujourd'hui, le coût a beaucoup augmenté pour les réfugiés. Les portes ne sont plus ouvertes en Europe. On est quand même encore en hiver, donc la traversée en mer Égée est encore plus dangereuse que pendant l'été. La surveillance policière s'est beaucoup améliorée du côté aussi européen. Donc je pense qu'en réalité, on n'est plus du tout dans les mêmes termes d'urgence que on l'était encore fin 2015 ou début 2016 quand la négociation s'est nouée sur les réfugiés syriens entre la Turquie et l'Union européenne. Donc j'ai tendance à penser que la rhétorique du gouvernement turc est très exagérée, qu'elle vise à évidemment à faire peur, qu'elle a aussi un aspect presque de provocation pour faire sortir de leur gond également les dirigeants européens. Et on a vu que certains ont réagi de manière déjà plus, même plus dure que les Allemands. Vous savez que l'Autriche a suggéré qu'on interdise tous les meetings politiques turcs sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne.
Oui, vous l'avez dit, la Turquie se repositionne par rapport à ses alliés traditionnels, même par rapport à l'Allemagne, avec qui pourtant elle a des liens très anciens. Mais sur la scène internationale, la Turquie reste quand même isolée avec le conflit syrien à ses portes, irakien, et des relations difficiles avec tous ses voisins.
Alors pas tant que ça, justement. Il y a une forme de rétablissement qui s'est produit, rétablissement paradoxal qui se produit au fur et à mesure de la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Le rapprochement avec la Russie a quand même rehaussé le statut de puissance régionale de la Turquie, puisqu'elle fait partie du club très fermé de ceux qui réfléchissent à l'avenir politique de la Syrie. Elle participe aux négociations d'Astana avec l'Iran. Elle s'entend pas si mal avec ses voisins du Golfe. Elle a des rapports un peu tendus avec l'Iran, mais à partir du moment où la quadrature du cercle sur la Syrie s'est faite et où la Turquie est revenue sur sa position anti-Bachar, finalement les relations devraient être tout à fait soutenables et supportables. Avec les États-Unis de Donald Trump, on a une interrogation, mais en principe, l'équipe de campagne de Donald Trump était plutôt bien disposée à l'égard du régime turc. Donc, au contraire, je crois qu'en ce moment, le président turc a l'impression que l'Europe est en position de faiblesse et que lui a gagné des soutiens.